Le journal de l'Écho, Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. C'est un secteur économique important pour la France en particulier, celui du vin. Le pays est l'un des principaux pays de production à l'échelle mondiale. Le secteur y représente près de 500 000 emplois directs et induits. Et c'est le premier secteur agricole français, sans compter son poids d'image et son intérêt pour les touristes étrangers. Bref, le vin est un immense secteur économique, mais en France et partout dans le monde, le dérèglement climatique a des effets sur les raisins et par conséquent sur les rendements, ce qui oblige les acteurs du vin à repenser leur modèle. C'est le décryptage éco du jour. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Anne-Laure.
Aujourd'hui, la situation climatique est telle qu'elle modifie, voire menace, les capacités de production des régions historiquement viticoles.
Oui, le dérèglement climatique redessine la cartographie mondiale des régions viticoles. C'est ce que montrent les travaux publiés fin mars par des chercheurs de l'INRAE, du CNRS, de Bordeaux, Sciences Agro et des universités de Bourgogne et de Bordeaux. Le constat n'est pas nouveau, mais c'est la première grande synthèse de 20 ans de littérature scientifique, 250 études existantes sur les effets du changement climatique. Chaleur et sécheresse accrue, évolution des parasites et maladies, multiplication d'épisodes météorologiques extrêmes qui abîment les vignes. Le principal effet, c'est quand même la hausse des températures. Elle a des impacts sur la vigne et la qualité du raisin. Ces évolutions sont visibles partout dans le monde, mais bien sûr, toutes les régions ne partent pas de la même situation. Benjamin Bois est l'un des co-auteurs, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne.
Dans les régions du Nord, on a un effet plutôt positif jusqu'à aujourd'hui du réchauffement climatique, avec une maturation qui se fait plus facilement et on a moins besoin d'avoir recours à certains apports exogènes comme par exemple l'ajout de sucre dans les moûts pour obtenir le degré d'alcool que l'on souhaite dans les vins. Donc on peut citer la Bourgogne, la Champagne ou encore le Val-de-Loire. Beaucoup de vignobles d'Allemagne ont des conditions climatiques qui leur permettent aujourd'hui de faire d'excellents vins. Et on voit se développer des régions viticoles comme le sud de l'Angleterre. À l'inverse, dans le sud de l'Europe et une partie de la Californie et d'Amérique du Sud ou encore de la région d'Adélaïde en Australie, toutes ces régions qui avaient déjà un climat chaud vont subir à l'avenir des conséquences assez négatives d'une poursuite de l'élévation des températures.
Autrement dit, ces régions risquent de ne plus être en capacité de faire du vin de bonne qualité avec des rendements économiques viables. Alors elles n'ont pas d'autre choix que d'adapter leurs pratiques à la vigne comme au chai. Beaucoup le font déjà. En France, par exemple, le cru Bagnols-Collioure dans les Pyrénées-Orientales vient de lancer son plan de relance. Il prévoit des déplacements de vignes, un travail sur une meilleure valorisation du vin. En début de semaine, les représentants du vin de Bordeaux et de la grande distribution se sont réunis pour relancer la filière qui traverse une crise économique.
Ce qu'il faut dire aussi, Catherine, c'est que la crise climatique n'est que l'un des éléments qui redistribue les cartes. D'autres bouleversements concomitants, mais tout aussi importants, viennent bouleverser le secteur.
Le climat change le goût du vin, mais le goût des consommateurs change lui aussi. Ils attendent des vins différents et ils en boivent moins. En tout cas en France, où la consommation a baissé de près de 70% en 60 ans. Et cela continue, les jeunes boivent peu de vin. Boire du vin tous les jours, c'est devenu une pratique minoritaire. Un changement économique pour les producteurs et une bonne chose pour la santé publique en raison des morts et des maladies dues à la consommation excessive d'alcool. Dans le fond, la question sur la table, c'est comment faire évoluer une filière majeure d'un point de vue économique, mais avec des enjeux de santé publique et des contraintes environnementales et les risques de ce qu'on appelle la maladaptation. Par exemple, irriguer de la vigne en captant de l'eau devenue rare dans un territoire, ce serait juste déplacer des problèmes.
Catherine Pétillon, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho et sur le site de France Culture. Le dérèglement climatique, enjeu crucial pour les économies, il semble que les pays du G20 ne l'aient pas assez pris en compte. C'est ce qu'a affirmé hier à Londres le chef de l'ONU Climat, Simon Steele, qui estime que les 20 économies les plus développées dans le monde sont en train de reléguer au second plan un dérèglement climatique qui va pourtant décimer leurs économies. Il plaide pour un nouvel accord financier à même d'aider les pays en développement à lutter contre le réchauffement et ce, malgré les dissensions du G20 sur Gaza et l'Ukraine. On en parlait mardi dans le décryptage éco. Face à la sécheresse, le Panama a dévoilé hier un projet de canal sec pour transporter les marchandises entre les océans Pacifique et Atlantique. Lorsque les niveaux d'eau seront trop bas dans le canal maritime, il utilisera les routes, voies ferrées, installations portuaires, aéroports et zones franches déjà existants. Environ 6% du commerce maritime mondial transite habituellement par le canal de Panama, mais il est fortement réduit en ce moment à cause donc de la sécheresse. C'est inédit et le vote est passé presque inaperçu hier au Parlement européen. L'Union européenne va mieux encadrer le traitement des eaux urbaines usées en faisant payer les industriels de la pharmacie et des cosmétiques, principale source des micropolluants qui entrent en station d'épuration. Selon Bruxelles, près de 60% des micropolluants viennent des produits pharmaceutiques et 14% des cosmétiques. Ces deux secteurs devront donc couvrir conjointement 80% des coûts supplémentaires de modernisation et traitement pour l'élimination de ces micropolluants. Enfin, en France, le nombre de défaillances d'entreprises a atteint un plus haut depuis 9 ans au premier trimestre, avec 17 088 procédures ouvertes, selon une étude du groupe Altares. Mais l'augmentation ralentit un peu sur un an. La barre symbolique, toutefois, des 60 000 faillites sur 12 mois a été franchie en février. L'étude montre que les activités liées à l'immobilier sont toujours en très grande difficulté, de même à moindre échelle que celles liées à l'équipement du foyer. D'autres activités repassent dans le vert, comme celles de services à la personne, de restauration et de commerce de bouche.